Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Clémentine Golsan, Olivier Lam et Christophe Comte, à notre programme Deux Frères de PNL, No Geography de Chemical Brothers, un coup de cœur de Christophe Comte pour l'Odyssée Remix de Fred Palem avec le Sacre du Tympan, et puis un petit salon de Lucille Como sur le thème Exposer la musique. Nous ouvrons cette dispute avec le nouvel album de PNL, Deux Frères, dont le succès a déjà été commenté sur notre antenne dimanche dans Signe des Temps de Marc Weitzman, émission que je vous invite à écouter ou réécouter en podcast. Il faut dire que la communication autour de cette sortie a été particulièrement efficace. On a déjà annoncé 100 000 albums vendus en 6 jours, 9 millions d'écoutes sur Spotify 3 jours après sa sortie. Les chiffres ne cessent de monter. On va débattre autour de ce disque. Mais d'abord, un premier tour de table, une phrase pour exprimer votre sentiment sur ce disque. Olivier Lam.
Un chef-d'œuvre intimiste.
Clémentine Golsan.
Où est la profondeur? Quand on cherche, est-ce qu'on trouve?
Christophe Comte.
J'ai envie de faire comme du PNL, j'ai des rebats les couilles.
Pas mal, c'est bien trouvé. Olivier Lam, on a compris que voilà, la défense sera plutôt de votre côté, mais je pense bien m'y joindre. Un court portrait de PNL pour celles et ceux qui arrivent de Mars directement.
Oui, alors, il s'agit du groupe de variété le plus original et populaire de France en 2019, hein, des chiffres absolument faramineux. Actuellement, c'est les 12 premières places du top single, d'après le syndicat national de l'édition phonographique.
Les 12 premières
places.
Les
12 premières places, 12 chansons du nouvel album.
Sur les 16.
Sur les, ouais, quelque chose comme 16, ça. Deux voix, voilà, absolument complémentaires, celle de Tariq et Nabil Andrieux, qui rappent et roucoulent une vie de deal, de zone, de prison d'errance de Corbeil-Essonne, où ils sont nés, jusqu'à Brive-la-Gaillarde, où ils ont passé leur adolescence. Alors ça, c'est une affaire qui avait été révélée à l'époque par le magazine Society, suite à la brouille de leur père, un ancien braqueur, du nom de René Andrieux, avec le maire de Corbeil à l'époque, qui était Serge Dassault, qui lui avait demandé de s'occuper de l'ouverture et de la gestion d'une association de gens en difficulté, en échange évidemment de quelques voix. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais voilà, des mots qui est le nom d'emprunt de Tariq, qui a cette voix rauque et terreuse, et Nos, donc Nabil, plus claire et plus adolescente. Et voilà, et qui ont fabriqué en 3 albums un univers absolument incroyable de complexité, de poésie.
Voilà. Bon, certains ou certaines y cherchent la profondeur. On va en parler après avoir écouté À l'ammoniac.
C'est le désert dans la tête. Je remplace centime par sentiment. Mon cœur se transforme en billet. Wow, 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 wow. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension envers l'homme et sa putain de race. Wow, 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 wow. Voilà, voilà, voilà. Que j'aimerais leur tendre la main, mais ces sauvages me la couperaient, mettraient ça sur le dos de la faim. Wow, 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 wow. Une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un je t'aime coupé à l'ammoniaque, où je finis comme Manu le coq. Wow, 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 wow. Yeah, man. Je crois que personne ne vit sans regret. Nous on est tout le contraire de Piaf. Cerveau à chaud, cœur baisse les degrés. Wow, 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 wow. À la vie, à la muerta. Le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une bière. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Je t'aime. Wow, 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 wow. folie. Waouh 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 waouh, passionnément. Waouh 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 waouh, à l'ammoniaque. Waouh 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 waouh, je t'aime. Waouh 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 waouh, à la folie. Waouh 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 waouh, passionnément. Waouh 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 waouh, à l'ammoniaque. Ma vie, ma vie. Pourquoi petite fleur affanée? Elle était belle loin de la jungle. Mais bon, la jungle l'a rattrapée. Ma vie, ma vie. Pourquoi tu perds les âmes comme ça? Ce monde a mal et je ressens ça. Ils sont dans le noir, mais je les vois. Je les vois, ma vie. Mais je n'ai Dieu que pour ma famille. J'ai fait millions, je me suis assagé. Mais on doit rendre ce qu'on a pris. Ma vie, ma vie. Chez moi on t'aime, puis on t'oublie. Chez moi on saigne, puis on grandit. Chez nous respecte, toi on tire. Ma vie, ma vie. Devenir quelqu'un pour exister. Car personne nous a invités. Donc on est venu tout niquer. Tout niquer, ma vie. L'histoire sera courte à mon avis. Comme la dernière phrase de ma vie. Je tirerai en l'air, j'irai tant pis. Ma vie, ma vie. Je me défonce, je fais la tif. Les anges sont tristes, les démons kiffent. Pourquoi t'as dit je t'aime au pif? Animal heureux sous les griffes. J'ai patienté pour me sentir vivre. Donne-moi du temps, j'en ferai du pif. En attendant, demain m'enivre.
L'ammoniaque, le PNL, extrait de ce nouvel album, Deux Frères, Christophe Comte. Oh, bon, il aurait fallu avoir les images pendant la diffusion de ce morceau pour avoir un peu.
Non, il fait très chaud, c'est pour ça.
Il fait très très chaud, oui, dans ce studio. Ouais. Non, mais en préparant l'émission, sérieusement, vous nous disiez que vous êtes plus intéressé par le phénomène PNL que par leurs paroles et musique.
Intéressé dans le sens, je suis interpellé à chaque fois qu'il y a un phénomène comme ça. Massif, relayé à travers tous les réseaux, parce que effectivement, c'est PNL a choisi de pas du tout s'exprimer dans les médias sous quelque forme que ce soit, enfin sur une forme parlée en tout cas, mais en revanche, ils occupent un terrain sur les réseaux sociaux qui est énorme et qui est relayé forcément. Et donc là, on parle de phénomène, mais la plupart du temps concernant PNL, on parle du phénomène, on donne des chiffres comme vous avez commencé à le faire. On dit qu'ils sont effectivement classés sur toutes les plateformes parmi tous les, je sais pas, les 20 premiers titres. Ce qui est le cas pour tous les albums de rap qui sortent à peu près, c'est
pas dans cette échelle-là.
Quand Damso ou Maître Gims sortent un disque, ils sont également, ils occupent les 15 premières places ou les 20 premières places. Mais bon, au-delà de ça, on peut dire effectivement que c'est un phénomène. Est-ce que ça en fait un disque intéressant? Ça, c'est différent. Parce que
oui, quand vous écoutez ce disque, ça vous produit quoi comme effet?
Ça me produit pas grand chose. Alors, le titre qu'on a écouté, c'est, je trouve, à la limite, oui, mais on le connaissait déjà, il est sorti il y a pas mal de temps. C'est le syndrome du moment où le groupe change un petit peu de registre, où on a une guitare acoustique, un côté un peu western. Il y a un texte dont on comprend à peu près
le sens. Là, on comprend tout quand même.
Oui, oui. Je trouve que sur ce disque, en tout cas, sur ce troisième album, on comprend mieux certaines choses. Après, le fait de comprendre ou pas n'est pas vraiment en soi quelque chose d'important. En revanche, après, sur l'ensemble du disque, moi je suis pas totalement hostile à quoi que ce soit. D'ailleurs, je comprends très bien que beaucoup de gens trouvent ça bien. Je comprends aussi qu'il y ait une sorte d'adhésion parce que dans l'univers du rap, ça n'a pas été les premiers, mais ils ont poussé le plus loin possible le côté mélancolique, dépressif. Bon, c'est aussi une forme de c'est un filon, c'est-à-dire que là, on le tire quand même très très loin. Et on a envie de dire, il y avait au départ, j'imagine, comme souvent, la mélancolie vient de la frustration, vient de choses comme... Mais au bout de trois albums, quand on a obtenu un tel succès, comment on continue à écrire là-dessus? Parce que, alors là, ils sont dans un autre...
Le succès est maintenant la source de leur dépression, exactement, si vous avez bien écouté les paroles.
Exactement, mais ça, c'est un problème aussi. Enfin, voilà, on se dit,
d'autres l'ont fait avant
chez le psy, mais... ouais. Voilà, musicalement, voilà, je reste assez... interdit face à la... Et d'ailleurs, je remarque qu'aucun des articles, à part peut-être un peu celui d'Olivier de Didier Perron dans Libé, ne parle de la musique. Jamais, jamais. Vous n'avez pas une ligne sur la musique. On parle beaucoup des textes, parfois dans des exégèses qui m'échappent totalement, et beaucoup du phénomène. Très, très peu de la musique, j'ai envie de dire, et pour cause.
Bon. Autre type d'écoute pendant qu'on écoutait donc à l'ammoniaque, Clémentine Golsan, qui... rigoler à toutes les
phrases.
Moi,
c'est une écoute flottante, carrément. Je suis toujours au bord de l'assoupissement.
Mais du rire, quand même, aussi. D'éclat de rire. Pourquoi?
Oui, parce que là, comme je suis à la radio, je ne peux pas m'assoupir. Mais si j'étais à la maison, je m'endormirais. Et là, comme je suis à la radio, je n'arrive pas du tout... D'abord, je ne comprends pas ce qu'il raconte. En fait, je trouve ça chouinard et d'un cucu achevé. Et ce qui m'interpelle, c'est que j'admire assez l'idée que dans le rap, certes, des rappeurs essayent de proposer une autre vision de la masculinité, de cette masculinité un petit peu datée du rappeur, d'une virilité d'hier. Mais là, ça tombe. Je veux dire, il y a autre chose entre l'hétérosexualité normée et brutale et la sensibilité. Il y a autre chose. Et là, PNL pousse carrément tellement loin qu'il tombe les deux pieds dans la sensiblerie et dans la chouinerie. Et je trouve qu'au moment où, aux États-Unis, Drake, Kanye West, Frank Ocean proposent pour le coup des visions alternatives de ce que ça peut être que la masculinité dans le rap, eux, ils passent complètement à côté et ils se vautrent dans la neurasthénie. Et on n'est pas obligé d'être neurasthénique ni violent, en fait. On peut être entre les deux. Ensuite, qu'ils soient tristes, qu'ils soient malheureux du succès, de l'insuccès et tout ça, c'est très bien. Moi, ça m'ennuie un petit peu le coup du deuxième, troisième album qui revient... toujours systématiquement sur maintenant ma vie, c'est dans le tourbus et en fait c'est pas non plus si bien. Et là, Romeo Elvis, d'ailleurs, l'album de Romeo Elvis qui sort là, surf aussi sur ce thème-là, qui est pas inintéressant quand c'est bien fait, mais.
Musicalement, pour poursuivre ce que disait Christophe Comte.
Musicalement, je trouve que ça prend les oripeaux de la trap d'Atlanta, que moi j'adore, que je trouve un mouvement fascinant, c'est-à-dire de ralentir au maximum, justement d'aller au bord de l'endormissement, mais que c'est comme un costume vide, quoi. C'est une pâle copie pour moi de la trap d'Atlanta.
Olivier Lam, exercice de défense.
Après, je vais prendre tout ce que j'ai entendu.
Parlons pas mal de musique, du coup.
Justement, je vais parler de musique parce que parler de dire que c'est juste un ressuscé d'Atlanta, c'est un groupe qui influence jusqu'à certains groupes américains aujourd'hui, y compris Drake, qui a fait des pieds et des mains pour faire une reprise d'eux et qui lui ont fermé la porte au nez, si j'ose dire. Sur le fait qu'il ne ferait que chouiner, il y a des morceaux de bravoure de rap, notamment, certaines phases d'ADMO, moi je trouve absolument incroyable, sur Shenmue, sur Déconnecté, que je trouve un morceau vraiment très beau pour parler de musique. Je pense qu'il y a une adéquation entre ce qui est raconté, ce qui est chanté, ce qui est la manière dont c'est mis en forme avec un vraiment un polissage extrêmement, je pense, qui explique aussi leur succès. Hein. C'est vraiment un tout, c'est vraiment une expérience très sensorielle, PNL. C'est pas la musique d'un côté et les paroles de l'autre. Il y a vraiment une adéquation, y compris dans des inventions et langagières et aussi de flow qui sont vraiment très étonnantes. Il y a des accélérations. Là, pour le coup, le disque, je le trouve vraiment très varié et tout. Il n'est pas du tout sur la même... sur la même tonalité. Oui, il y a un morceau reggaeton, etc.
Au marché sud-américain.
Bah, il lui tend pas les bras. Il l'avait fait sur l'album précédent. Je pense, c'est une sensibilité qui les intéresse. Moi, ce que je trouve qui pourrait notamment expliquer, je pense, une partie du succès de PNL, c'est qu'ils ont construit un monde qui est, qui est indépendant, qui est complètement, qui a certes effectivement des influences, qui accueille des influences, y compris de rap assez pointues, mais le fait qu'ils ne collaborent avec aucun autre rappeur, que ce soit sur ce disque ou eux, sur les disques d'autres artistes, et je trouvais assez révélateur de cette espèce d'autarcie musicale, autarcie aussi intime, parce qu'ils ne font que parler quasiment l'un à l'autre, alors que sur les disques préférents, il y avait beaucoup plus la famille, la MIF, comme ils disent, le QLF, fameux, que la famille. Là, on a l'impression qu'ils sont vraiment tous les deux complètement en circuit fermé, à évoquer leur passé, leur présent, leur futur, leurs angoisses, etc. Enfin, l'histoire de ce fameux spleen de l'argent, ce spleen du succès, etc. Et moi, je trouve qu'il y a une continuité vraiment entre le moment où ils appelaient vraiment le succès de leur vœu et maintenant qu'ils l'ont obtenu et sur la manière dont ils parlent d'argent, y compris dans le morceau qu'on vient d'écouter. L'argent qui remplace les sentiments, c'est quelque chose qui revient en boucle. Et surtout, il n'y a pas de dichotomie qui serait claire. Ils passent leur temps, je trouve, à passer d'un extrême à un autre et à embrasser une espèce d'impossible dialectique, j'ai envie de dire, vraiment, entre des choses totalement contradictoires, y compris quand ils sont sensibles, il y a toujours un mot incroyablement vulgaire et cathartique qui vient tout faire s'écrouler, ou alors un cri, un hurlement, une accélération. Et je pense que c'est pour ça que chaque chanson de l'album est en soi une espèce de petite odyssée, extrêmement contenue, extrêmement circonscrite dans un projet esthétique et narratif. C'est pour ça que je parle de complexité, c'est parce que c'est un groupe qui travaille énormément, alors que vraiment si on peut reprocher quelque chose au rap actuel, notamment au rap français, c'est des albums de 20 morceaux où on sent qu'il n'y a pas eu assez de travail, pas assez d'invention. Là, il y a vraiment des objets qui sont puissants en soi.
Moi, je vous suis sur la variété. Moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'endormissement possible sur l'album de Frère. Moi, j'avais pas été tellement sensible aux albums précédents. Je veux dire, celui-là, il m'a vraiment cueilli assez immédiatement. D'abord, ça se ouvre quand même par un son de kora, donc que j'attendais pas forcément. C'est-à-dire qu'on a quand même, vous parlez de reggaeton, mais on a aussi de l'Afrique, on a vraiment des couleurs assez différentes et plutôt inattendues. Mais le fait qu'on ne parle pas que de musique, c'est quand même aussi, vous dites projet esthétique, Olivier Lame, je vous rejoins, parce qu'en parlant avec mes filles adolescentes, et la plus jeune notamment, on me dit, mais tu sais, si on est aussi à fond sur PNL, c'est parce qu'il y a les clips, il y a le film, on est tous là, on veut regarder, ça dure super longtemps, et on arrive en retard au collège, ce qui est pas très bien, mais parce qu'il fallait qu'on regarde tout le clip avant que les cours ne commencent. Enfin, c'est normal qu'il n'y ait pas que la musique. Moi, la musique, je la trouve, sur cet album-là, mais c'était déjà le cas sur les précédents, d'une grande efficacité. Et je trouve qu'il y a une assez jolie relation entre le texte et musique ici. Je suis pas fou des ruptures dont vous parliez chaque fois qu'il faut balancer une vulgarité parce qu'on a mis un peu d'émotion. Je trouve que le systématisme nuit un petit peu. Bon, c'est la réserve que je ferai à Christophe Comte.
C'est à peu près 45 fois par titre. C'est même pas de temps en temps. Moi, ça me choque pas. Hein. Je suis pas puriste.
Mais c'est pas choquant. Je trouve ça dommage d'être dans le systématisme.
C'est lassant au bout d'un moment.
Oui, c'est ça.
Et le terme employé par Olivier et Didier Perron sur Gilles de la Tourette dans le papier de Libé, c'est vraiment ça.
Oui, c'est
moment,
plutôt ça, oui. Pas s'empêcher de.
Et puis c'est répétitif. C'est toujours les mêmes. Quoi.
Oui, le vocabulaire est assez restreint de ce côté-là, alors qu'il est davantage varié.
Vous parliez des clips, notamment, de toute cette esthétique. Moi, je la trouve extrêmement beauf, quoi. C'est-à-dire, le clip à la Tour Eiffel, c'est vraiment le truc pour marcher, pour attirer le marché mondial. Enfin, il y a un côté, quand même, tous les ingrédients de cette vulgarité qu'on voit régulièrement dans le rap, ils sont là, malaxés.
Avec 20 000 balles de fringues sur le dos, en plus. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux remettre quelque chose en cause, vraiment, et être belle, remet en cause le capitalisme. Ouais, t'habilles pas en Vuitton.
Ah oui, disons, rappeur, ce qu'il doit faire et dénoncer, c'est mieux. Hein.
Non, mais non,
pas
depuis
nos petits depuis studios de France Culture.
C'est une suggestion.
Par ailleurs, ils le font. Ils amènent un studio de découpe de shit en haut de la Tour Eiffel. C'est-à-dire, s'il y a pas de... Le message peut pas être plus clair en termes de... Voilà, ils le disent. On met le seum dans les quartiers riches. Un seum qui fait peur dans les quartiers riches.
Mais ils font peur à personne. Ils font
aujourd'hui,
peur à qui
les quartiers riches, c'est les gilets jaunes qui leur font peur, c'est pas PNL.
Mais pourquoi il y aurait pas une continuité entre PNL et les quartiers riches et les gilets jaunes?
Parce que les gilets jaunes, ils sont pas habillés en Vuitton.
Par ailleurs, je pense pas qu'ils revendiquent non plus un discours subversif plus que ça. C'est quand même, on est quand même dans une veine rebelle, mais en tout cas surtout poétique, quoi. Ils sont politiques de fait par la manière de l'endroit d'où ils parlent. Enfin, je trouve que c'est un peu systématique et un peu désagréable de tout de suite faire le procès en non-cohérence politique parce que c'est un groupe de rap français. Voilà, on le ferait pas forcément à Angèle ou à je ne sais qui. Voilà.
Moi, je le fais complètement à Kanye West, à Drake, pareil, je trouve ça pathétique quand même, quoi. Ça me gêne, quoi, beaucoup, franchement. Cette attitude de rébellion qui, en même temps, embrasse le capitalisme de cette manière-là, ça me...
C'est une histoire de 40 ans de culture rap, mais
oui,
ça,
oui,
c'est
évidemment
un problème.
Enfin... Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me les rendrait attachants. Ça me... Peut-être.
Vous arrêteriez de rire ou de dormir.
Oui, voilà, peut-être.
Mais vous trouvez pas qu'ils se mettent suffisamment à nu sur le disque pour être justement attachants?
Mais moi, je trouve que ce que je disais, moi, de leur...
Je serais intrigué y parler en dehors de ça. C'est-à-dire que là, je ne sais pas quel est leur processus. Je ne sais pas si c'est un processus ou si c'est vraiment un vécu, si c'est quelque chose qu'ils ressentent, qu'ils arrivent à exprimer autre part que dans des textes qui peuvent tomber au procédé. Oui, ils sont sans doute déprimés par le succès, par la bif, par tout ce que vous voulez. Mais quand on ne parle pas, on est suspect malgré tout d'inventer tout ça, d'être dans une pure rhétorique qui marche.
Allez, Lucille Comeau, au bout, parce que quand dans la même phrase, il y a gilet jaune, PNL et capitalisme, elle est obligée d'intervenir.
Je suis totalement d'accord avec Olivier, c'est vrai qu'on demande à ces artistes-là de se justifier de quelque chose qu'on ne demande à personne d'autre. La question de la sincérité des textes, c'est pas une question.
Moi, il me semble que
c'est une posture, c'est une fiction PNL, leur album, c'est une pure fiction.
Il me semble que c'est ce que vous voulez y voir.
C'est ce que je reçois.
Franchement, j'ai pas du tout envie de les entendre plus qu'on les entend
Gucci,
déjà.
C'est ironique, leur manière de lancer des mots comme ça, d'une vulgarité incroyable au milieu de textes sensibles, c'est profondément ironique. On leur nie en permanence le droit d'avoir un discours sur leur propre travail et d'intégrer ce discours-là à leur album.
Ce dont ça manque, c'est l'humour, justement. Et d'ironie, c'est-à-dire que c'est pas drôle, c'est premier degré.
Moi, il me semble qu'il y a, il y a beaucoup d'humour par ailleurs, il y a d'ironie, effectivement, y compris dans les ruptures, etc. Je pense que il y a, il me semble que le meilleur, la meilleure preuve du fait que leur album précédent s'appelait Dans le mythe, ils ont construit une mythologie qui fascine Ophi, Arnaud, parce que c'est un univers qui est effectivement suffisamment complexe pour qu'on ait envie d'y pénétrer, d'y passer du temps pour déchiffrer les codes, etc. Et aussi y trouver des émotions, parce qu'il y a des personnages qui reviennent dans leurs chansons qui sont, moi, je suis content de retrouver. Alors après, ça fait partie vraiment des rares disques que j'ai écouté récemment qui me donnent envie presque d'utiliser des arguments intime, enfin en tout cas d'émotion, parce que je trouve que c'est compliqué de parler de son goût ou même de l'intérêt de la musique de PNL sans passer par un biais presque intime, parce que effectivement ils ont construit ce lien avec leur public et avec leur auditoire qui est vraiment sur un fil intime, je pense.
Et le dernier mot pour Lucille Comeau sur ce disque de PNL.
Mais juste citer quelques paroles pour montrer à quel point ils incluent ce type de réception qu'on peut avoir d'eux. À un moment donné, ils disent « Je suis ravie que ma haine vous plaise, ravie qu'on vous baise ». Je trouve ça mais totalement révélateur de la manière qu'ils ont d'intégrer totalement à leur posture.
Mais ils baissent personne. C'est absolument indolore. Mais vraiment, c'est là où vous vous trompez. C'est qu'il n'y a absolument pas... Le fantasme de choquer le bourgeois n'existe plus du tout. Tout dans ce genre de musique, mais c'est d'un conformisme, on entend ça partout.
Sur Twitter, personne ne choque plus de rien. C'est...
Ah bah non, bah ça, de ça en tout cas, moi absolument pas. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Parole PNL, vous lisez le truc, mais c'est d'une indigence totale. Vous voyez ça, vous dites ok, bah, très bien, mais ça ne me choque pas du tout. Ils peuvent dire enculé, pute, bitch, machin. Franchement, j'en ai entendu d'autres, ça me choque pas. Et ni leur discours ultra-capitaliste, ça me choque pas non plus. Mais vraiment, je trouve ça juste affligeant, c'est tout. C'est pas une question de choquer.
Allez, Olivier.
Non, mais je pense qu'ils n'ont pas de discours ultra-capitaliste. Alors l'indigence, moi, quand je regarde la manière dont effectivement ils sautent sans arrêt d'une forme de discours à une autre, en se contredisant eux-mêmes, en passant vraiment par des tours jusqu'au cafard qu'ils embrassent. Moi, je trouve quand même qu'il y a une, enfin, je suis désolé, mais il y a vraiment une littérature là-dedans qui est dense.
Deux frères de PNL chez QLF Records. On a déjà largement exposé le compteur du temps. Sur cet album, écoutez par vous-même, faites-vous votre avis, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Mais nous allons nous encore parler de Chemical Brothers, de Fred Palermo et du Sacre du Tympan. Et il y aura un petit salon, le Zilcomo, il sera peut-être un petit peu plus court. Hein.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la musique avec un retour, celui des Chemical Brothers, bientôt 30 ans de carrière pour le duo mancunien, et un 9e album qui vient d'arriver dans les bacs, 4 ans après le précédent. On est forcément curieux de voir comment Tom Rollins et Ed Simmons, qui ont fait danser le monde entier, imaginent le Dance Floor 2019, premier tour de table, là aussi rapide pour résumer vos impressions sur ce disque. Christophe Comte.
Euphorisant, on va dire, s'il faut un mot.
Clémentine Goldsall.
Daté.
Olivier Lame.
Vivant.
Bon, vous avez fait très court, on écoute Free Yourself.
Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me, free us, free yourself. Help to free me, free us, free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Dance.
Free us. Free yourself, free them, dance. Free yourself, help to free me, free us. Free yourself, help to free me, free us. Free us. Free us. Free us. Free us.
Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce morceau de Chemical Brothers qui a fait danser de chaque côté de la vitre, il faut bien le dire. Sauf Clémentine Goldstein qui a décidé de rien aimer ce soir, visiblement. Bon, je vais commencer avec Christophe.
Si, j'aime bien ce morceau.
Ah,
ouais,
tout de même.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, vous développerez dans un instant. Mais Christophe, compte peut-être décrire le visuel de cette pochette qui serait comme, pour le coup, assez annonciateur de ce qu'on trouve dans le disque.
Oui, parce qu'on y voit un char d'assaut, enfin je crois que c'est ça, un char en tout cas, de guerre, et puis un ciel assez radieux avec des nuages quand même. Donc j'ai appris en lisant Olivier Lame que
ouais,
c'était une photo prise
piqué
dans un livret de Golden Cream, les membres de Tennessee. Alors là, je suis
il
fasciné.
Il faut y aller, hein. Oui, c'est vrai.
Je suis vraiment fasciné par cette anecdote, parce que les Chemical Brothers sont vraiment réputés pour leur artwork qui est toujours assez frappant. Et là, ils ont recyclé quelque chose. Bon, bref, mais on a une bonne vision de ce disque qui est un peu du recyclage aussi, donc quelque part c'est peut-être dans le discours également, mais en tout cas quelque chose d'assez belliqueux, comme souvent chez les Chemical Brothers, en tout cas à l'origine, et en même temps évidemment de très hédoniste, festif, mais avec ce coup-ci quelque chose peut-être du côté du belliqueux qui est lié plus à la situation de l'Angleterre d'aujourd'hui. Après, c'est un disque que moi, j'ai voulu aimer tout de suite, c'est-à-dire que j'ai eu envie de l'écouter, ce qui n'avait pas été forcément le cas des deux ou trois précédents, même si je les ai réécoutés depuis, et je ne trouve pas celui-là si différent finalement des derniers, mais j'étais passé un peu à côté. Et donc du coup, une sorte de mise à jour. Pour moi, comme Weezer, c'était vraiment un très très grand disque des Chemical Brothers. Celui-là m'a un peu frustré par moments. Alors je sais que c'est un argument que mettent en avant certains, de dire il n'y a pas de guest, il n'y a pas tout ça, mais moi j'aimais bien quand il y avait des guests, j'aimais bien voir justement ce choc thermique entre certaines voix qui n'avaient rien à voir avec l'univers de la house, de la techno, mélangé souvent sur des ballades, faut dire, mais aussi sur certains titres plus rock. C'est vrai que les Chemical Brothers ont vraiment fait le lien entre la génération des raves et celle du rock. Ils étaient vraiment le groupe de rock de la rave culture, par leur attitude, leur son et la dynamique. Tout cet esprit big beat à un moment qui était très très rock finalement. Donc voilà, c'est un groupe pour lequel on a un grand attachement. Ce disque-là a ses moments formidables, d'autres moments un peu plus lassants.
Clémentine Goldstein, alors ce morceau que nous avons écouté, Free Yourself, ça passe? Le reste, non.
Bah, ce morceau, ça passe. En fait, j'aime bien le dernier tiers de l'album. Et ce morceau, typiquement, je trouve que bon, il y a quelque chose à quoi s'attacher. Il y a des voix qui sont pas terriblement synthétiques. Et il y a quelque chose que je peux suivre et qui monte. Il y a une progression. Donc, moi, je me raccroche à ça et ça me permet d'apprécier ce morceau. Et j'aime bien justement son côté belliqueux. Je trouve que sur le reste de l'album, et notamment vraiment toute la première moitié de l'album, moi, ça me semble très puéril et un peu hors sol, en fait. C'est-à-dire que ça pose la question, évidemment, de qu'est-ce qu'on fait quand on est un groupe qui a créé il y a 15 ans, il y a
25 ans,
qui a continué de créer. Et quand 25 ans plus tard, tout le monde vous a imité, qu'est-ce qui reste de vous, quoi? Et c'est une question tragique et ça me fait de la peine pour eux. Mais en fait, après avoir été tellement imité, je les trouve maintenant terriblement à la traîne, quoi, de ce qui peut se faire aujourd'hui. Alors ensuite, moi, j'aime bien quand il y a des voix, quoi. Il y a quelques morceaux qui ont des voix et que je trouve assez joyeux. Il y a un morceau qui s'appelle We've Got to Try que j'aime bien. Parce que je trouve qu'il y a il y a des sonorités un peu vintage qui se cognent avec des choses plus synthétiques et j'aime bien ce mélange-là. Sinon, quand c'est une sorte d'autoroute d'artifice et de désincarnation, je suis complètement perdue dans l'éther, quoi. Moi, vraiment, ouais. Mais,
Ça vous passe à côté.
Complètement.
Olivier Lame sur Chemical Brothers, ce nouveau disque
Oui, moi c'est un disque qui m'a plu tout de suite. Il y a quelques semaines, quand j'ai eu la chance de qu'on me l'envoie, voilà, un peu plus tôt que sa sortie, pour avoir l'opportunité de parler de quelque chose avec Ed Simmons, un des deux du duo. Et je dois dire que ça m'était effectivement pas arrivé d'être emballé par un disque des Chemical Brothers comme ça depuis Come With Us, que je trouvais déjà décevant par rapport à la sainte trilogie, les trois premiers, Exit Planet Dust, Dig Your Own Wall et Surrender, surtout que je pense est à ce jour leur chef-d'œuvre. J'aimerais bien revenir sur ce que disait Christophe sur le côté rock. Ce que je trouve assez passionnant, c'est qu'aujourd'hui on peut revenir sur l'histoire des Chemical Brothers et sur, on va dire, l'espèce de phénomène au centre duquel ils étaient, qu'on appelait le Big Beat, et pour se rendre compte à quel point ce n'était pas en fait du rock. Mais c'était, en fait, ils n'inventaient pas vraiment quelque chose. Eux, ils avaient juste une passion pour des passerelles qui existaient déjà, mais qui étaient complètement éparses dans des choses souvent assez obscures. Ils allaient chercher Mean Beat Manifesto, Public Enemy, New Order, et ils mélangeaient tout ça dans leur mix. Et puis ils ont commencé à faire des morceaux qui étaient, qui utilisaient, on va dire, effectivement des samples de batterie de rock, etc. Mais pour une énergie qui était allée totalement acid house, totalement ensuite qui a suivi un peu l'évolution jusqu'à ce qu'on appelait la progressive avec ses, voilà, avec ses longues montées, etc., un peu tarte à la crème, un peu vulgaire, etc. Mais toujours avec cette sensibilité des morceaux bizarres, des morceaux de dub, etc., avec des sonorités bizarres. Et là, je retrouve ça après, effectivement, une poignée de disques où, effectivement, je l'ai trouvé un peu à la traîne de la production, on va dire, électronique mainstream générale. Notamment parce qu'ils essayaient aussi d'être autre chose qu'eux-mêmes. Ils essayaient d'être un peu ce qui marchait. Ils ont pris acte de toute l'explosion de la French Touch 2.0, comme on l'appelait, avec Justice, etc. C'était pas très heureux, ils étaient obligés d'avoir des invités de plus en plus célèbres, etc. Et là, ils se sont débarrassés de tout, parce qu'effectivement, ils sont en pétard. Enfin, il y a vraiment un truc, j'utilise l'expression en pétard, je sais pas d'où ça me vient.
PNL, vous n'avez plus de dire de grossièreté.
Non, mais c'est pas une posture pour le coup. Alors, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les groupes anglais, 1 sur 2, vous parlent que du Brexit. Enfin, on peut les comprendre. Voilà. Il y a vraiment ce côté, volonté de faire la fête face à l'apocalypse, moi, qui est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché, effectivement, dans la dance music. Et moi, je trouve l'album extrêmement bien construit, jusque dans ces moments de calme, ces reprises, ces explosions. C'est vraiment c'est un disque de vieux, faut le dire. En fait, c'est un disque, effectivement, ils ont complètement oublié de suivre les modes, et ils se contentent vraiment de recycler leur propre formule. Mais, enfin, pourquoi ils le feraient pas? Enfin, je veux dire, c'est comme les Rolling Stones qui, d'un coup, font un disque de blues un peu roots. Enfin, pour moi, on est dans cette dynamique-là, et c'est vivant, voilà.
C'est vivant, mais c'est tellement vivant que le temps passe si vite qu'on s'arrête sur ce premier tour de table concernant les Chemical Brothers. Moi, j'ai énormément aimé ce disque, j'aime énormément, je l'écoute beaucoup. Alors, pour le coup, c'est vrai que ça faisait un petit moment que les Chemical Brothers ne m'intéressaient plus guère, mais je trouve qu'il y a quand même une efficacité énervée que je trouve extrêmement réjouissante. Et puis, il y a aussi normalement le plus grand tube disco de l'été, qui est dans ce disque-là. Donc, je pense qu'on va l'entendre. Nous vous en déplaise, Clémentine Golsal. No Geography des Chemical Brothers sorti chez Virgin. C'est l'heure du coup de cœur, le coup de cœur de Christophe Comte, un petit peu en retard. Hein. L'Odyssée Remix de Fred Palem et le Sacre du Tympan,
décidément.
Pourtant, je les connais bien. Au Train Fantôme, est-ce qu'on en écoute d'abord un petit extrait ou est-ce que vous en parlez d'abord?
Je préfère en parler d'abord.
Eh bien, vous en parlez d'abord.
Je vais en parler très rapidement parce que je crois qu'on a un peu dépassé. donc, Fred Palem, le Sacre du Printemps, du Tympan, décidément. forcément. Fred Palem, donc, qui est un bassiste, chef d'orchestre, arrangeur français, qui a donc fondé cette formation, cet ensemble, le Sacre du Tympan, il y a 20 ans, l'année dernière. En tout cas, ils ont fêté leurs 20 ans avec cet album qui s'appelait L'Odyssée. Et là, ils poursuivent les festivités avec l'Odyssée Remix. Si je voulais vraiment faire écouter le morceau qu'on va entendre, c'est parce que Fred Palem a une démarche. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi les cinéastes ne l'appellent pas pour faire des BO, parce qu'il fait des BO.
Oui, oui.
Et il rend hommage au BO, notamment de François Droubet. Il en a fait tout un album, La Blaxploitation. Et sur ces BO, souvent, notamment François Droubet faisait, à partir de thèmes, il faisait des chansons. Il appelait des interprètes, parfois c'était Alain Delon, Nicoletta, qui chantaient sur les thèmes des films. Et c'était souvent assez réussi, parce que les thèmes étaient très forts. Et Fred Palem a donné comme ça ses morceaux en pâture à quelques remixeurs, des gens comme Domotique, Yuxek, Forever Pavot, qui en ont fait des choses dans leur style, mais il a donné surtout un morceau à Julien Gasque, chanteur notamment de Aqua Serge, et Julien Gasque en a fait une chanson, le morceau c'est l'Odyssée, et il en a fait la chanson d'Odyssée. Et je trouve ce morceau absolument bouleversant. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on l'écoute.
La perspective qui trompe mon œil, mon âme. Tu te perds dans la digression vide. Le cœur s'assoit, je suis ton confident, muet, qui jamais ne désespère.
Énorme frustration pour nos auditrices et auditeurs qui vont être, et c'est ça qui est bien, obligés de se procurer l'album de Fred Palem et du Sacre du Tympan, c'est chez Train Fantôme. Il me semble que nous sommes entrés, oui, un peu tard, mais quand même entrés dans le petit salon de Lucille Comeau ce soir, l'exposition musicale, fleurie ou frémie. Non, fleurie, un peu partout.
Et pose et repose une question, comment donner à voir la musique, comment la mettre en espace, ce à quoi chaque exposition répond d'une manière différente. Alors on peut déjà peut-être dresser une sorte de typologie des expositions musicales. Il y a les expos qui s'intéressent à un artiste, il y a eu Piaf à la bibliothèque François Mitterrand il y a quelques années, David Bowie, Beethoven, Barbara à la Philharmonie. Il y a les expos qui choisissent un style, un courant, c'est le cas d'Electro en ce moment aussi à la Philharmonie, à une période ou un lieu, comme c'est le cas de Paris-Londres à la Cité de l'Immigration qui croise la problématique musicale et les questions postcoloniales, ou encore à une forme comme la récente exposition sur les comédies musicales. Alors toutes ont en commun d'attirer en tout cas avec succès oreilles et regards des médias et du public. Elles sont toutes très différentes ces expositions, mais ont en commun de chercher à montrer quelque chose qui n'est guère exposable a priori. Alors il y a plein de solutions, hein. On peut montrer des tas de choses périphériques à la musique, comme par exemple des pochettes de disques, des costumes de scène, du matériel de studio, des instruments de musique, etc. Souvent, il y a beaucoup de documents, des partitions, des lettres, des affiches, des photographies. Il y a aussi des vidéos, hein, beaucoup de vidéos. Il peut y avoir des œuvres qui, pour une raison ou pour une autre, ont un lien avec la musique. Là, on navigue souvent en zone dangereuse, par exemple. Dans les deux expositions qui ont lieu en ce moment, Paris-Londres et Electro, il y a des œuvres du plasticien Xavier Veillant. Et il y a de la musique, alors plus ou moins, selon diverses modalités et degrés de sophistication, en fonction des investissements scientifiques et financiers des institutions, depuis la musique originale composée pour l'occasion et spatialisée, au casque à brancher soi-même sur des postes d'écoute. Avec de gros défis à chaque fois, comment faire en sorte que l'espace ne se transforme pas en vaste pot-pourri sonore où se mêle ce qu'on entend au casque, ce qu'on entend dans la pièce à côté ou la vidéo que regarde le voisin. Dans l'exposition Beethoven à la Philharmonie par exemple, les accords de la cinquième qui résonnaient dans la première salle couvraient tous les sons suivants, casque ou pas casque. Finalement, on a un peu l'impression à force de les fréquenter, ces expositions création musicale qu'elles sont de vastes défis pour scénographes qui rivalisent de stratégies qu'on peut toujours soupçonner d'être plus ou moins des entourloupes. Toutes se confrontent en tout cas à l'idéal d'exposition-expérience revendiqué à nouveau avec Electro par la Philharmonie de Paris. Mot que je vous retourne, avez-vous déjà fait l'expérience d'une bonne exposition sur la musique ?
Ah, c'est ça la question ? J'allais dire Beethoven, mais bon, visiblement, on n'a pas eu la même perception. Mais j'interviendrai peut-être. Mais plus tard, Clémentine Goldsan, pour répondre à la question de Lucille Como.
Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Pas souvent. Ça m'est arrivé la dernière fois. En fait, moi, j'aime bien l'expo sur l'électro à la Philharmonie. M'est passé, mais je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça tout petit. J'ai rien compris. Je suis rentrée, je suis sortie. Il y avait des queues de une heure pour rentrer dans les seuls trucs qui avaient l'air marrants. Évidemment, je ne sais pas si ça avait l'air marrant parce qu'il y avait la queue. En tout cas, c'est là que je voulais aller, mais je voulais pas attendre une heure. Donc, la dernière expo sur la musique qui m'est plu, c'est l'expo sur Michael Jackson au Grand Palais. Mais parce que je crois que la seule manière, en tout cas à mon sens, de faire sens quand on essaye d'exposer la musique, c'est d'y aller carrément et d'exposer l'art qui naît d'un artiste, de la musique qui s'inspire d'eux. Mais d'essayer, ce que vous disiez, d'essayer de montrer la musique, pour moi, c'est plus ou moins voué à l'échec. Donc il y a ça, et il y a des musées, notamment, mais je pense, j'étais à Memphis là, le mois dernier, il y a un musée assez génial qui est dédié à Stax. Et ça, moi, j'adore rentrer dans la musique de cette manière-là, et tout d'un coup, c'est palpable, mais parce qu'on voit les costumes d'Isaac Hayes, des pochettes de disques, il y a des reconstitutions de studios. Et donc là, c'est une manière de faire l'expérience de la musique, mais pas en fait de la musique, du contexte socio-culturel de la musique avec son corps. Mais d'essayer d'écouter de la musique dans une salle d'exposition, c'est pas mon truc.
Ben, en fait, c'est vrai que Michael Jackson, c'est un peu le même exemple que Beethoven, parce que l'exposition Beethoven, elle n'était pas sur la musique, elle était sur le mythe Beethoven. Est-ce que
Beethoven quand même à la Philharmonie. Enfin...
Oui, mais le parti pris, c'était vraiment celui-là, il était totalement assumé. Moi, je trouve que c'était justement intéressant pour ça, parce qu'il ne s'agissait pas de s'intéresser à la musique, mais bien plus à ce que ça a généré comme image, comme littérature, comme film. L'expo Michael Jackson, c'était un peu la même idée. Christophe Comte, est-ce que vous avez donc, je reviens à la question de Lucille Comeau, un bon souvenir d'exposition musicale?
Bon souvenir, oui, j'ai des souvenirs assez flous maintenant, parce que je trouve qu'on oublie assez vite. J'ai, comme beaucoup de gens, j'ai bien aimé l'expo Bowie, mais parce que je l'ai vu à Londres et ensuite je l'ai vu à Paris. À Londres, je l'ai trouvé plus spectaculaire. Et quand on est fan d'un artiste, c'est vrai que c'est toujours... Alors, il y a un côté un peu geek, un peu...
Fétichiste
à aller voir les costumes, mm-hmm. les écrits, les manuscrits, des choses parfois tellement superficielles, parce mm-hmm. que parfois c'est des listes de courses presque. Là sur l'expo électro, c'est plus une explosion qu'une exposition, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est compliqué d'exposer un si vaste continent en si peu de mètres carrés. Mais je trouve, contrairement à Clémentine, qu'on en retient quand même des choses par fragments. En revanche, c'est compliqué pour les gens qui ne maîtrisent aucune de ces musiques, en tout cas qui n'ont pas une habitude de les fréquenter très souvent. Parce que là, pour le coup, il y a des moments où c'est un peu crypté, mais j'ai pas trouvé ça si désagréable parce qu'au moins ça a cette alors je comprends ce que disait Lucille, c'est vrai qu'à chaque fois c'est un vrai challenge pour les scénographes et qu'on essaye d'en mettre un peu plein la vue, mais c'est aussi
plein les oreilles, c'est ça le
plein
problème,
les oreilles
surtout.
Oui, mais là dans
ça peut être la collision sonore,
l'expo électro, c'est un peu normal, on a l'impression.
Forcément.
Moi je suis allé le matin à l'exposition réservée à la presse, le son était assez fort, ça s'entrechoquait, on avait l'impression d'être dans un club. Je trouver ça assez agréable. Peut-être que si on y va dans la journée et qu'il y a plein de monde autour, c'est plus compliqué. Après, il y a des expos qui sont parfois très décevantes. Il y a c'est toujours tellement difficile d'exposer un art qui est par essence immatériel qu'on en revient toujours à des choses qui sont, oui, des pochettes de disques, des fétiches, des manuscrits, des instruments. Alors, dans l'expo électro, il y a quand même une galerie d'instruments assez incroyable. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire que c'est jamais, ça, on n'apprend pas grand-chose si on connaît très bien, et si on connaît rien, on est perdu. Donc c'est un peu toujours le problème de ces expositions qui ne satisfont pas grand monde, et beaucoup de gens ont adoré l'expo, par exemple, sur les comédies musicales, alors qu'on ne disait pas grand-chose. Il y avait des grands panneaux, on retrouvait comme ça toutes les comédies musicales que tout le monde connaît, mais il n'y avait pas beaucoup de choses autour. Parfois, c'est un peu de l'esbrouf.
Olivier Lame.
Ouais, je vais revenir sur la question initiale parce que je pense à une exposition que j'ai vue récemment à la Dame Design Museum à Bruxelles, qui est le musée du design qui est à côté de l'Atomium, qui s'appelle Night Fever, qui est une exposition qui a un peu tourné et qu'on a vu à Londres avant, mais qui est vraiment une coproduction qui est notamment faite par la commissaire de la Dame et qui est une exposition sur le design dans les boîtes de nuit depuis les années 60. C'est quelque chose de très précis. Pour le coup, c'est quelque chose où on apprend énormément parce qu'on voit tout d'un coup on a des conjonctions avec d'autres champs artistiques, évidemment le design, on découvre l'existence d'une boîte de nuit qui n'a jamais finalement vu le jour, dont s'occupait Jim Henson avant de faire les Muppets, qui était avec un projet de design de complètement dément, tous les designers italiens, bon alors voilà, je pense que c'est un axe, et donc j'étais dans un état d'esprit qui était celui d'une découverte, pas totale, parce que je m'intéresse. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'exposition où la thématique principale se perdait un peu parce qu'on arrivait dans les années 90-2000, on commençait à avoir des costumes, du New Beat belge, ensuite la rêve, on se retrouvait avec des objets en fait très divers, de nature artistique très divers, du design, des maquettes du Berghain à Berlin, enfin des choses complètement et là tout d'un coup tout s'effilochait, et puis surtout je reconnaissais des choses et dans ce moment-là en fait quand on aime un mouvement, un artiste, etc., on ne voit que les trous, ce qui est toujours un problème. Donc en fait moi je serais presque de la vieille garde, j'ai presque envie d'avoir des expositions très anglais, très linéaires, très pédagogiques. C'est assez frappant, on y reviendra parce que je crois qu'on va revenir sur l'exposition électro. L'exposition commence après quelques touches iconographiques avec une chronologie illustrée avec quelques synthétiseurs, quelques images, quelques grandes figures mythologiques, etc., avec un storytelling qu'on pourrait remettre en cause, mais ensuite, elle vous lâche au bout de la frise. Vous êtes dans une petite salle, et là, vous avez le choix entre aller à gauche, à droite, devant, derrière. Et là, vous vous retrouvez sur des îlots de connaissances. Et je pense que 90% des gens s'y paument complètement, et les 10% restants cherchent, qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent, qu'ils voient, éventuellement de légers changements par rapport à la géographie habituelle des musiques électroniques en France. C'est frustrant, voilà.
On reviendra effectivement d'une prochaine dispute sur l'expo électro.
Mais l'exposition dont vous parliez à Bruxelles, il n'y avait pas de musique typiquement dedans.
Il y avait un peu de musique dans le fond, mais il y en avait assez peu finalement. Et les endroits où il y avait la musique finalement étaient les moments les plus désagréables. Moi, j'avais envie de regarder des photos sur un mur avec des textes explicatifs, parce que pour le coup, il y avait là tout d'un coup un savoir, un domaine entier qui s'ouvrait. Voilà, qu'est-ce que c'était faire le design d'une boîte de nuit en Italie à Rimini dans les années 60, faite en plus par des grands groupes de design de l'époque, d'avant-garde, etc. On apprend quelque chose de manière assez basique. On n'est pas dans une évocation pour les fans, ou au contraire, on va dire une agiographie un peu pénible qu'on éclate pour l'expérience, pour le sensoriel, quoi.
Moi, j'ai l'impression que sans faire appel ou à, en effet, un croisement avec un autre art ou à quelque chose lié aux sciences humaines, à l'ethnomusicologie ou à la sociologie, on a du mal à scénographier juste la musique. Alors que, je sais pas, je me dis même graphiquement, enfin d'un point de vue de scénographe, il pourrait y avoir des choses à faire plus intéressantes que juste des prouesses techniques de bains sonores, de casques, de trucs comme ça. Et je n'ai jamais vu quelque chose qui me satisfaisait de ce point de vue.
On a vu qu'entre on navigue entre la reconstitution, pseudo-fétichisme, et qui sera jamais, évidemment...
Oui, parce que électro, c'est moins bien qu'un club. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller en club.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il faut aller en concert, je crois, si on veut être à côté de gens, écouter de la musique en communauté et pas chez soi et tout, il faut aller au concert.
Le problème, c'est que tout le monde a peur de l'archive, parce que tout le monde a peur de la poussière, tout le monde a peur que quelque chose effectivement qui est de l'ordre de l'éther, de la vivacité, de l'électricité, tout d'un coup se retrouve figé sur un mur. Et donc, je comprends qu'on cherche à... Le problème, c'est qu'il y a un problème, je pense, mais c'est ce que j'avais dit au moment où on parlait de l'exposition sur les communes musicales, il y a un problème cognitif, c'est-à-dire que la découverte de la musique, c'est quelque chose qui passe en premier... Pas seulement, mais en premier par l'écoute. Forcément, là, on est obligé de se brancher sur des trucs avec un casque. On peut le faire n'importe où, a fortiori aujourd'hui avec Internet, les plateformes de streaming, etc.
Christophe Comte, qu'on n'a plus entendu depuis tout à l'heure.
Pas mieux, non. C'est... Moi, je trouve ça normal qu'il y ait de la musique dans une expo sur la musique et qu'on puisse un peu entendre, parce que nous, on est habitués à écouter beaucoup de choses. Mais enfin, y a plein de gens qui débarquent là-dedans et qui ont envie de savoir de quoi on leur parle. Donc, avoir un extrait musical à travers un casque, c'est quand même pas non plus quelque chose d'anormal. Après, voilà, on peut trouver ça puéril ou j'en sais rien. Ce que je trouve frustrant, c'est toujours la côte mal taillée entre quelque chose qui serait érudit et quelque chose qui serait très grand public, et qu'à chaque fois, on, selon l'endroit où on se situe sur le curseur, on est à la soit frustré, soit paumé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Bon, je le redis, c'est plus ça qui me dérange. Je pense que si on donnait des questionnaires de satisfaction à la sortie des expositions à des gens, et on verrait des réponses parfois, voilà, où les gens disent on n'a rien compris.
Ouais, parce que c'est peut-être aussi une forme encore jeune, l'exposition de la musique, parce que des lieux se sont créés qui ont permis ce type d'exposition d'exister, mais enfin, je pense qu'il y a effectivement beaucoup à faire. On critique beaucoup les expositions d'art plastique, hein, donc dans cette émission, l'exposition de musique, elle a ces défauts-là d'être pas assez pointue.
Toutes les grandes figures exposables sont passées déjà. Donc,
Dans
la musique populaire.
C'est
hein,
parce voilà. qu'elles sont passées qu'elles ne repasseront pas.
Oui, voilà,
c'est possible, mais en revanche, on est arrivé au bout d'un cycle très très vite.
Bon, on n'a pas eu l'expo disco, je crois que Night Fever c'était ça.
Le problème, c'est que ça marche pas.
Sur le design, bah, c'était notamment sur la culture disco, mais voilà, son avant-garde.
À tout le monde à Graceland.
Bon, bah écoutez, voilà le mot de la fin de ce petit salon. C'est l'heure du jeu de la dispute. Hier soir, il n'y a pas eu de jeu, parce que hier soir, l'actualité était un peu particulière. Donc, rappel, Joséphine Dumoulin, de la question de vendredi, déjà.
La question était: à quel docu-fiction italien des années 70 Alessandro Scaglioni fait-il référence dans son spectacle Augusto? Et la réponse était Les Clowns de Fellini.
Ce soir, des DVD à gagner du film Pic de Mani Haghighi, distribué par Epicentre Film. Quelle est la question, Joséphine?
Quel cinéaste iranien a coécrit le premier film de Mani Haghighi présenté à la Berlinale?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. À la prise de son, Jean-Guilain Meige, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, à 19h, une dispute art plastique avec Ingrid Luc-Egal, Corinne Rondeau et Stéphane Correa. Nous parlerons de rouge, art et utopie au pays des soviets, c'est au Grand Palais. Franz Marc, Auguste Mack, l'aventure du cavalier bleu au musée de l'Orangerie, Tommy Ungerer. En attendant, c'est jusqu'au 5 juillet au Centre culturel irlandais. Il y aura un coup de cœur de Stéphane Correa pour un livre, A Cookbook, de Dorothy Yannon chez JRP Éditions.